La chronique de Dalimil est l'un des textes fondamentaux de l'histoire de l'identité tchèque. Et Louise Had, chercheuse au Centre français de recherche en sciences sociales, vient de soutenir une thèse portant sur ce précieux texte. Au micro de Paul Bauer, Louise Had revient sur la dimension politique de la chronique à l'époque de sa rédaction, c'est-à-dire au début du XIVe siècle, et nous éclaire sur les multiples réutilisations dont ce texte a été l'objet depuis sa rédaction jusqu'à nos jours.
Chapitre de l'histoire. La chronique de Dalimil est un texte extrêmement connu en République tchèque. Est-ce qu'on peut parler d'un texte fondateur de la nation tchèque ?
En effet, la chronique de Dalimil a un caractère fondateur. C'est la première chronique écrite en tchèque. Alors, ce n'est pas la première chronique tchèque, puisque l'a précédée la chronique de Cosmas. Mais cette chronique de Cosmas, c'est une chronique issue de la sphère monastique, donc qui avait un caractère confidentiel, qui était destiné à des moines, à des clercs, qui à l'époque représentaient le domaine de la culture au Moyen-Âge. Et donc avec Dalimil, avec cette chronique, on sort de cette sphère confidentielle des monastères pour envahir le domaine public, si on peut dire, la société, l'espace public, avec une chronique qui entend s'adresser à la nation tchèque et qui leur parle en tchèque.
Alors comment vous définissez le contexte politique dans lequel le texte a été écrit ?
Alors, le contexte politique de la rédaction de ce texte est un contexte extrêmement complexe, puisque la chronique a été écrite environ en 1309-1310, c'est-à-dire trois ans après l'assassinat de Venceslas III. Il a été assassiné le 4 août 1306. Et cet assassinat rassemble des enjeux extrêmement importants, puisque d'une part, il n'a pas de descendants. Donc après son assassinat, la dynastie des Przemyslides s'éteint. C'est une dynastie qui régnait sur la Bohème depuis Borzivoj, c'est-à-dire depuis la fin du 9e siècle. Donc ça veut dire que tout d'un coup, l'État est vraiment ébranlé dans son essence, d'une certaine manière, puisque l'État tchèque et la dynastie des Przemyslides ont grandi d'une certaine manière en même temps, ensemble. Et du coup, la fin de la dynastie des Przemyslides, ça voulait dire aussi, d'une certaine manière, la fin de l'État tchèque. Et on le voit très bien avec les velléités des Habsbourg qui essaient de s'emparer à ce moment-là, qui s'est profité de ce vide politique pour s'emparer de la Bohème et en faire vraiment une maison à part entière, un domaine à part entière de leur maison. Donc il y a plein de tensions finalement qui s'activent de manière très très forte à cette période.
Comment qualifiez-vous le discours de Dalimil dans la chronique ?
Le discours de Dalimil est politique. En effet, son auteur présente un programme politique extrêmement structuré. Il invite les seigneurs à se réunir et à prendre conscience de leurs forces. À la fois, pour lui, il remonte à l'origine de l'État tchèque, où il raconte en fait une histoire selon laquelle ce sont les Tchèques qui ont créé les seigneurs tchèques, pardon, qui ont créé l'État tchèque et qui ont choisi Przemysl le premier duc de la Bohème. Et donc il donne de l'importance aux seigneurs tchèques en leur assignant de siéger au conseil pour jouer le rôle politique qu'ils doivent jouer. Et de cette manière, remplir la mission nationale, jouer le rôle de nation, mettre en scène la nation qu'il découvre à travers les pages de sa chronique.
Donc parler de nation au XIVe siècle est extrêmement moderne. Comment la nation se définit dans ce texte ?
Alors la nation chez Dalimil est extrêmement importante. Il l'appelle la langue, avec toute la richesse polysémique que ce terme peut avoir, puisque il parle de langue, enfin il utilise le mot yazyk qui signifie nation en vieux tchèque, hein, narod. Mais effectivement, il ne parle pas que de la langue dans le sens le système de communication qui permet aux gens de parler entre eux. Hein, il parle vraiment de, quand il utilise ce mot, il parle vraiment de la nation en elle-même, dans le sens moderne du terme. Alors bien sûr, avec les limites qu'il faut apporter à cette notion pour l'époque, hein, quand il parle de nation, c'est pas du tout dans les mêmes termes que les nôtres aujourd'hui, et il limite cette nation à la noblesse, au seigneur tchèque. Alors pas dans le sens où il voudrait quelque chose d'un système oligarchique, extrêmement mais il faut se replacer dans cette époque-là où pour lui, le seigneur, c'est la personne qui est capable de préserver l'intégrité de la Bohème parce que le domaine, il a une vision de la noblesse comme d'une noblesse terrienne où la terre joue un rôle extrêmement important. Et du coup, pour lui, le seigneur, c'est celui qui a intérêt à préserver son domaine. Et donc, c'est la base du territoire, du royaume et donc de la nation pour lui.
Donc, préserver un domaine, préserver un territoire, une intégrité territoriale, une nation, c'est une forme de patriotisme national avant l'heure, non ?
Alors, avant l'heure, c'est un peu difficile de voir les choses comme ça. C'est surtout que là, je dois à nouveau parler de ce contexte où il y a vraiment une menace très importante. Et donc, le risque que la Bohème se dissémine totalement dans le domaine, l'empire des Habsbourg, qui lui, au contraire, à cette époque-là, est extrêmement puissant. Donc, il y a toujours ce contexte politique qui est extrêmement fort. Alors après, est-ce que c'est du patriotisme avant l'heure ? C'est difficile de voir les choses comme ça. Mais en plus, au-delà de cette menace extérieure, il y a aussi une menace intérieure qui est extrêmement importante avec des Allemands très nombreux sur le territoire de la Bohème, et aussi avec un changement au XIVe siècle, donc qui a commencé au XIIIe, mais qui est de plus en plus sensible durant cette période, c'est une montée de la bourgeoisie.
Une bourgeoisie tchèque, une bourgeoisie allemande.
Voilà, une bourgeoisie qui est extrêmement germanisée au XIIIe siècle. Et c'est là la clé du message de Dalimil. C'est que derrière toutes ces considérations politiques, nationalistes, nationales, il y a aussi une situation sociale très très structurante avec une bourgeoisie allemande germanisée de plus en plus riche, de plus en plus puissante, et une noblesse tchèque qui, elle, au contraire, a l'impression de perdre un peu du terrain à la fois face à la tendance absolutiste du pouvoir qui est de plus en plus marquée, hein, donc dans toute la chrétienté à cette époque-là, et cette montée de la bourgeoisie. Donc elle a l'impression, la noblesse tchèque a l'impression vraiment d'être enserrée, d'être prise de court de tous les côtés.
Donc on devine tout l'intérêt de la réutilisation de ce texte dans les périodes ultérieures. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments pour comprendre la manière dont ce texte a été récupéré par la suite ?
Alors ce texte a été extrêmement réutilisé et très tôt. C'est ça qui est intéressant dans ce texte, c'est que dès le XVe siècle, il y a une réutilisation par le mouvement hussite. Et ce qui est aussi caractéristique, c'est que cette réutilisation va se focaliser sur certains aspects du message de Dalimil. Et très vite, la portée politique de son discours est totalement gommée pour privilégier les aspects nationalistes. Donc XVe siècle, il y a tout, à nouveau la menace Habsbourg qui est réactualisée, le mouvement hussite qui essaie de dégager les aspects vraiment tchèque de la société de la Bohème et de rassembler, de mobiliser le peuple autour de ces éléments-là. Donc elle reprend le texte comme l'étendard de la nation tchèque et dans l'histoire, de manière récurrente, ce message nationaliste est réactualisé.
Et au-delà du Moyen-Âge, comment ce texte a-t-il été utilisé ?
Alors ce texte a été réutilisé, comme je l'ai dit précédemment, pour son message nationaliste et anti-allemand. On le voit très bien au moment du renouveau national, qui est une période extrêmement importante dans l'historiographie, même dans la culture tchèque, hein, qui commence donc à la fin du XVIIIe siècle et qui s'épanouit vraiment durant tout le XIXe siècle. Et cette période est caractérisée par le travail très très important des philologues, des historiens tchèques, qui essaient de retrouver l'essence, d'une certaine manière, du peuple tchèque, et donc à travers ces mythes fondateurs. Et du coup, la chronique de Dalimil, qui recense tout, du mythe ethnogénétique à toutes les légendes de création du duché, etc., a été un peu le catalyseur, et du coup est reprise de manière très intense par tous ces historiens.
Après 1948, durant les décennies du socialisme d'État, est-ce que ce texte est utilisé ? Est-ce qu'il est compatible avec les idéaux de l'époque ?
De manière surprenante, ce texte est compatible. Il est repris de manière très constante dans les programmes scolaires. Il fait partie vraiment des textes qui de base de l'enseignement de la littérature tchèque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois il est repris, alors avec le message national, hein, finalement, qui n'était pas du tout, qui n'entrait pas en contradiction avec les visées socialistes. Et on lui donne une couleur plus acceptable, prolétarienne. Il y a cette histoire de la rencontre de Boghena et Oldřich. Oldřich, c'est un des ducs de la Bohème, hein, au XIe siècle. Et donc cette histoire est reprise. En fait, Oldřich se promène à cheval dans la région de Postolopolti et il voit Boghena, une lavandière, en train de laver du linge dans la rivière. Et il clame un discours extrêmement anti-allemand où il dit: je préfère me marier avec Boghena, une paysanne tchèque, plutôt qu'avec une reine allemande. Et là, c'est repris non pas dans le sens anti-allemand du texte, mais dans un sens prolétarien où Oldřich préfère une pauvre tchèque, et donc dans une vision extrêmement démocratique du message, alors que c'était pas forcément en ces termes-là que Dalimil s'adressait à son public.
On le voit en vous écoutant, ce texte est fondateur pour l'identité nationale tchèque. C'est un texte qui propose un programme politique, c'est extrêmement moderne. Est-ce qu'on trouve des textes similaires dans d'autres pays d'Europe centrale rédigés à la même époque?
Non, on ne trouve pas d'autres textes. Ce texte est vraiment très très particulier. On ne trouve pas de texte aussi structuré et en plus aussi long, hein, puisque ce texte est long, il contient 103 chapitres, capable surtout de s'imposer vraiment comme un texte fondateur et de le rester encore aujourd'hui. C'est un texte, comme on l'a dit, qui est présent dans tous les programmes scolaires. C'est un texte qui a été capable de sortir de sa portée initiale pour s'adapter aux périodes antérieures et qui est capable à chaque fois de mobiliser l'intérêt d'un public important.